Actu SF, les podcasts.
Bonsoir. Alors, merci à vous d'être là pour cette table ronde, plutôt que d'être à l'ombre, dehors, au frais, en train de vous reposer. Donc, merci. On va essayer d'être à la hauteur et de réfléchir avec vous sur ce thème un peu mystérieux qui est la science-fiction, l'imaginaire en liberté. Alors, il y a un jeu comme ça pour les habitués des tables rondes des imaginales qui est d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes se retrouvent sur certains panels. Et quel est le lien de la personne avec ce thème ? Et là, avec un thème aussi particulier, je pense, oui, voilà, à la fois général, à la fois oui, étrange, un peu déroutant, auquel j'ai un peu réfléchi de mon côté, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on puisse partager autour de ce thème et voir comment les auteurs ici présents s'en saisissent ou pas. Donc on va faire un petit tour. Alors je pourrais m'amuser à essayer de vous faire les biographies des personnes ici présentes. Ça serait un peu dommage de ne pas profiter de leur présence pour les laisser dire eux et elles-mêmes qui ils et elles sont. Donc à ma gauche, j'ai Étienne Kunge, que je vais laisser se présenter et peut-être nous dire immédiatement son lien avec le thème.
Merci, bonjour à tous. Donc Étienne Kunge, je suis expert en environnement dans la vie civile. Je travaille sur ce sujet-là et j'écris depuis 8 ans de manière assidue. Donc là, mon troisième roman est sorti aux éditions Critique. Ça s'appelle Symphonie atomique, c'est de l'anticipation. C'est moi le coupable. Et du coup, comment je vois le thème ? Je vais essayer de lancer le débat. Donc moi, je vois le thème de plusieurs manières. La première chose... Peut-être, vous le voyez ou vous le remarquerez, j'ai des petites difficultés motrices de mon côté. Donc, je trouve que l'écriture, c'est déjà une liberté en soi parce que ça permet de vivre ou de des choses qu'on ne peut plus faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc, pour moi, l'écriture, c'est déjà un domaine de liberté. Et dans le domaine de la science-fiction, ce que je trouve particulièrement intéressant en termes de liberté, pour moi, dans ma réflexion, c'est que ça part de la science, ça part d'une base scientifique, ça permet de spéculer sur des développements technologiques qui n'existent pas, dont on ne sait pas s'ils existeront un jour, et de réfléchir aux conséquences de ces développements technologiques sur la psychologie des individus, des personnages, des romans, et sur la société. Voilà.
Il faut partager le temps de parole. Merci. Et donc, Jean-Marc Ligny, que je connais, mais sans vraiment le connaître, en fait. On se croise depuis des années et des années. Je sais que ta bibliographie est immense. Et donc, à toi de t'essayer au résumé. Qui es-tu et quel est ton lien avec ce thème ?
Donc, je suis auteur de science-fiction depuis ma tendre enfance. Enfin, non, lecteur de science-fiction depuis ma tendre enfance et auteur de science-fiction depuis... la fin de mon adolescence, on va dire. Et voilà, j'ai publié une quarantaine de bouquins. Et depuis 20 ans, je suis un peu braqué et branché et obnubilé sur le changement climatique et ses conséquences, sociales notamment, humaines, écologiques, à tout point de vue. Et donc, pour l'auteur de SF que je suis... Découvrir qu'on avait cet avenir-là qui nous pendait au nez et qu'allait nous tomber dessus, quoi qu'il arrive, ça fait réfléchir, quoi. Ça donne moins envie d'écrire des histoires d'empires galactiques et de vaisseaux spatiaux, parce que j'y crois un peu moins, là, maintenant. Et donc, je me suis servi de cette réalité-là, du changement climatique qui, actuellement, nous affecte tous pour... effectivement, essayer d'imaginer, de mettre en image, autrement dit, ce qu'on nous assène à longueur de rapports, de bouquins, de rapports du GIEC, d'interviews, d'articles. On en est un peu inondé de tout ça. Mais des chiffres, des statistiques, des degrés, ça parle pas tellement aux gens. ce qui leur parle, c'est d'une part de vivre les situations en direct, ce que je souhaite à personne, mais ce qui nous arrivera à tous, et d'autre part de les imaginer à travers des personnages qui font de leur mieux pour s'en sortir et voir pour aider les autres peut-être.
Micro. Et donc je vous présente André David.
Bonjour à tous. Alors moi je suis grand lecteur de science-fiction et jeune auteur. C'est mon premier roman paru en mars dernier aux éditions Critiques. Alors pour le thème liberté et dans l'imaginaire, moi je pense que c'est plutôt dû au fait que j'utilise un matériau historique réel pour mon histoire qui est du voyage dans le temps, et c'est plutôt liberté avec l'histoire, liberté avec les événements, liberté avec la matière existante. C'est comme ça que j'envisage plutôt du coup ma présence ici, de partir du vrai et de le remodeler à sa guise, et comment la science-fiction permet en tant que genre et en tant que dans tous les thèmes qu'elle présuppose, permet de s'affranchir des limites physiques qu'on connaît, du matériau avec lequel on est habitué dans notre physique et dans notre quotidien, la réalité de notre quotidien. Voilà.
Et juste à côté, Delia Sherman et sa traductrice.
My name is Delia Sherman. I am a writer of historical fiction and historical fantasy. So I think that the reason that they thought this was appropriate was that the book that I have translated into French is called The Freedom Maze, Le Labyrinthe vers la Liberté.
Alors bonjour, je m'appelle Delia Sherman, je suis autrice de fiction historique et de fantasy historique. Alors je pense que j'ai été invitée ici parce que le roman que j'ai traduit a parlé ici aujourd'hui, parce que le roman que j'ai traduit en français s'appelle Le Labyrinthe vers la Liberté.
I think that for me it's very important to look back to see where we have been so that we can know where we are going to, because of course history repeats itself and one hopes that it does not.
Je pense qu'il est important de regarder, de se retourner vers notre passé pour justement pouvoir anticiper ce qui va arriver. Parce qu'on le sait tous, l'histoire, elle se répète. Et j'ose espérer que ce ne sera pas le cas.
I very much am interested in the idea of liberty, both in what happened. My book is set in the time of the American Civil War, which was fought about the freedom, primarily about the freedom of enslaved peoples.
L'idée de la liberté est très importante pour moi. Le livre dont je vous parlais, Le Labyrinthe vers la Liberté, se situe à la période de la guerre de sécession. Et cette guerre, en fait, a été causée en grande partie par un combat pour la libération des esclaves qu'il y avait aux États-Unis.
And the book that I'm working on now is about the commune in Paris. So the whole idea of liberty is very important to me, and also I find time travel, which is also in this book, very interesting, because to see how things reflect back and forth. The science fiction that I most appreciate is the kind that does allow some time slip, that makes some of the congruences between the world that we are currently living in and the world that we might live in someday the clearest.
Alors le livre que je suis actuellement en train d'écrire se déroule pendant la Commune de Paris. Donc cette idée de la liberté est vraiment très importante. Et je trouve que le concept de voyage dans le temps est également très intéressant. Ça permet de réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qui va arriver, ainsi de suite. La science-fiction est également très importante parce que ça permet de voir des congruences, des ressemblance entre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et dans le monde dans lequel nous pourrions vivre à l'avenir.
Donc, comme vous pouvez vous rendre compte, la liberté s'incarne dans les discours de tous nos panélistes sous la forme de voyage dans le temps, qu'il s'agisse d'un voyage au rythme d'une seconde par seconde vers l'avant ou en arrière, ou beaucoup plus vite vers l'avant. Et du coup, j'aimerais vous entendre sur cette notion de voyage dans le temps un peu plus avant, peut-être toi.
Ben moi, du coup, je n'ai pas vraiment écrit sur le voyage dans le temps, mais je fais de l'anticipation. Donc le principe, c'est d'essayer de projeter à partir d'aujourd'hui un futur possible. Et en fait, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mon collègue qui écrit sur l'environnement. La philosophie est la même. Finalement, mon objectif, je pense qu'on est confronté à un vrai défi aujourd'hui sur les sujets environnementaux. Et mon objectif, quand j'écris, c'est de faire ressentir émotionnellement ce que ça veut dire, parce que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'un moteur émotionnel pour l'action et que quelque part, l'aspect intellectuel ne nous suffit pas à agir, à nous mettre en mouvement. En fait, vous pouvez lire le rapport du GIEC 100 fois, c'est extrêmement pénible. Ça vous met en stress, mais ça ne vous donne pas forcément envie d'agir. Alors que moi, je pense que le but, quelque part, en faisant ressentir une émotion sur ce qui va arriver, on crée un moteur d'action et derrière, l'intellect peut prendre la relève pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Et donc, je pense que c'est vraiment, pour moi, le but, c'est d'anticiper le futur pour essayer de dévier sa route, quelque part. Et donc, c'est vraiment ça, mon rapport au temps.
Je voudrais entendre Jean-Marc. Prends ton micro, parce que c'est le mien.
C'est ton micro à toi.
Et comment ça marche, du coup? Est-ce que tu... J'entendais une démarche vraiment prospective, comme presque un refus de la fiction, donc j'y reviendrai. Et toi, comment tu vas? Comment ça marche ce voyage dans le temps? Est-ce que tu lis l'avenir? Est-ce que tu es en transe et tu sais ce qui va se passer? Ou est-ce que tu travailles sur des rapports? Enfin, comment ça marche?
J'aimerais bien être en transe et puis révéler l'avenir. Non, malheureusement, je me base, tout comme mon collègue, sur des rapports et des écrits scientifiques. Donc, c'est très raisonné et très plausible et très logique et le plus réaliste possible parce que. La science-fiction, c'est avant tout la littérature du réel et du monde réel, voire du monde présent. Et donc, moi, je me suis fait un voyage de 3 siècles dans le temps au fil de 4 romans, qui décrivent comment le climat se modifie et la Terre se modifie et l'humanité se modifie depuis un futur très proche qui est quasi maintenant dans un quatrième, vers la fin du siècle au niveau de Exode. Et dans 3 siècles pour Semence et Alliance. Donc, effectivement, je me suis fait un voyage dans le temps et qui était, quand je suis arrivé aux alentours de 2300, qui était un peu flou, même aux yeux des scientifiques. Pourtant, j'ai interrogé des scientifiques sur comment vous voyez la Terre dans 3 siècles. Là, il n'y a plus de littérature là-dessus. Tous les climatologues et scientifiques qui sont branchés sur le climat, la Terre, la biodiversité, etc., je dirais pas prophétise, parce que c'est pas de la prophétie, mais disons analyse, plutôt, au plus jusqu'à la fin du siècle. Et après, on a l'impression que, arrivé en 2100, c'est un néant. Il n'y a plus d'études, il n'y a plus de... Bon, ce qui est compréhensible, parce que le climat, c'est un système chaotique qui peut prendre des formes très inattendues, comme on commence à s'en rendre compte. Mais ça n'empêche pas les scientifiques de goberger, et je les ai fait goberger, et ils m'ont, chacun dans leur spécialité, donné des pistes.
Donc tu travailles en réel avec des scientifiques qui...
Pour Semence, c'est ce que j'ai fait, oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais déjà un peu eu l'avis et les conseils éclairés de Valérie Masson-Delmotte sur Exode. Donc Valérie Masson-Delmotte, si vous ne connaissez pas, enfin je pense que tout le monde la connaît un peu maintenant parce qu'elle passe pas mal à la télé, a été présidente française du GIEC et spécialiste des paléoclimats, c'est-à-dire des climats passés de la Terre. Et donc, quand j'ai attaqué Semence, donc, qui se passe en 2300, je me suis dit, tiens, spécialiste des climats passés, elle peut peut-être me donner un tuyau sur les climats futurs. Donc, j'avais envoyé mon scénario et tout ça. Je lui avais demandé de me faire des commentaires, ce qu'elle m'a fait. Et elle m'a dit, plutôt que de relire ton texte et tout, je vais te faire rencontrer quelques collègues, spécialistes chacun de leur domaine, dans leur domaine, l'océan, l'air, la flore, la faune, etc., Et puis tu pourras discuter avec eux. Bon, moi je m'attendais à rencontrer deux, trois collègues, mais en fait elle a carrément organisé un mini-séminaire au LSCE, donc le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, à Gif-sur-Yvette. Et ils sont retrouvés à une vingtaine, et puis je les ai écoutés, délirer, pas délirer, mais imaginer pendant facilement presque une journée, quand même deux tiers d'une journée, on va dire, sur le climat en 2300. Et je pense que c'était la première fois qu'ils se retrouvaient à une vingtaine à discuter, à échanger sur leurs spécialités respectives, en fait.
Et juste toi comme public ?
Avec juste moi comme public, qui prenait frénétiquement des notes. Et
tes copains.
Et donc, c'est comme ça que j'ai établi un peu que je me suis projeté en 2300 pour Semence et Alliance, quoi.
D'accord, merci. Est-ce que tu peux passer la parole à André ? Toi, c'est quoi ton époque dans les naufragés de l'Institut Fermi ?
Alors, j'ai deux époques. À peu près 2300, mais un peu plus loin, et ensuite beaucoup plus loin dans le futur. Mais pour ce qui est du voyage dans le temps, moi, je me suis fondé sur le paradoxe de Fermi. Alors, Enrico Fermi, c'est un prix Nobel, et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont rassemblés avec d'autres scientifiques pour réfléchir sur la présence ou non de civilisations extraterrestres. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, quel est le lien avec le temps ? C'est que finalement, ils ont posé une équation avec des variables, donc c'est un vrai travail scientifique. Et ils se sont rendus compte que non seulement on n'est jamais rentré en contact avec une quelconque forme de civilisation, mais qu'en plus, on aurait dû. Et donc, quelque part, le fait qu'il y ait cette absence de contact, c'est le nom du paradoxe de Fermi. Et la solution la plus communément admise de ce paradoxe, c'est que les sociétés s'effondrent avant de se rencontrer les unes les autres. Donc c'est une des hypothèses parmi plein. Je vous invite à aller consulter les pages qui en parlent. Il y en a plein, mais celle-ci, c'est quand même la plus fondée, de dire que finalement, on est voué à s'effondrer parce qu'on n'a pas rencontré d'autres formes d'intelligence. Donc non seulement nous, mais aussi les autres formes s'effondrent. Et c'est le cycle naturel des civilisations. Donc, dit comme ça, c'est assez stressant, mais toute la notion de voyage dans le temps, elle vient de ce point-là. Et donc l'Institut Fermi, qui se trouve dans un petit coin perdu au bord de l'eau, sont des gens qui corrigent à la marge l'histoire de manière à faire évoluer les constantes de de l'équation qui a été posée par Enrico Fermi, de manière à rendre, non, quelque part, en rendant possible la rencontre, ça autorise les civilisations à perdurer. Donc c'est ça. Alors je rejoins par rapport à ce qui est du climat, on voit que c'est l'une des causes qui pourrait conduire à l'effondrement, quel qu'il soit. On le voit qu'il peut y en avoir d'autres, plus ou moins. Étienne, dans son livre Symphonie atomique, il décrit du coup le péril qu'on pensait disparu, mais qu'on voit potentiellement pointer le nez de retour. Donc voilà, c'est ça pour moi le rapport au voyage dans le temps.
Merci Delia. Alors comment on fait ? On réunit des scientifiques aussi quand on veut partir dans le passé, ou comment ça se passe ?
There is no science in this book. Nothing.
C'est merveilleux.
Il n'y a pas de science dans ce bouquin, mais rien.
What I am interested in is more the social sciences than the hard sciences.
Which are sciences too?
Alors, je m'intéresse plus aux sciences sociales qu'aux sciences dures, mais ce sont quand même des sciences.
That's true. C'est vrai. I am very interested in how people change over time. And when you look at the society of 1860 and 1960, which is the two times that are in my book, you see that some things have changed a lot and some things have not changed at all, especially around the issue of race.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comment l'humanité change avec le temps. Et dans mon livre, il y a une période qui se déroule en 1860 et une autre en 1960. On voit en comparant ces deux périodes que certaines choses ont énormément changé et d'autres pas du tout, particulièrement quand on parle de race.
And what I am doing, because I can't deal with large canvas, and this is also a children's book, I am dealing with the ideas of one child, a young girl who is brought up in the South, in Louisiana, in 1960, and which was a very racist society in a very certain way.
Alors, ça ne peut pas être un livre à grande échelle parce que c'est un livre pour enfants. Donc, je ne me concentre que sur les idées d'une petite fille, d'une jeune fille de 13 ans qui grandit dans le sud des États-Unis, en Louisiane, en 1960. Et à l'époque, c'était une société très raciste.
And she is taken back to 1860, which is right on the eve of the Civil War. And she is mistaken because she is dressed like a little girl in 1960, which is a short cotton dress, and her hair is very curly, and she has a tan. They take her for the daughter of their, they take her for a slave, who of mixed blood of their family, because she looks very much like their family. And over the course of the book, she learns. Things that she did not know in 1960. So she changes enormously, that one person. And I felt that that stood for, it stood for some of the things that society was doing in the later 60s.
Alors voilà, c'est en fait, la jeune fille remonte dans le temps de 1960 en 1860, donc à l'aube de la guerre de sécession. On la prend pour un esclave, tout simplement parce qu'elle a une robe de petite fille, donc une robe courte, pas une robe longue comme elle aurait porté. Elle a les cheveux frisés et en plus elle est bronzée. Ils la prennent pour une esclave métisse. En plus, ils pensent que c'est une esclave qui est la descendante d'un membre de leur famille, parce qu'il y a un petit air de famille. Dans ce livre... Dans cette période, en 1960, elle apprend beaucoup de choses qu'elle ne savait pas quand elle était en 1960. Et elle grandit, elle change énormément. En fait, c'est un peu la société. Elle représente ce qu'elle apprend, en fait, qu'elle représente un peu la société de la fin des années 60 plutôt que le début des années 60. C'est clair?
And I think that societies can only change one person at a time. So that's what I think.
Et personnellement, je pense que la société ne peut changer qu'une personne à la fois. Ça ne peut marcher que comme ça. C'est ce que je pense.
Merci. Alors, on va, je pense, changer d'échelle en écoutant le texte sélectionné par Jean-Marc.
Je peux prendre celui-là.
Comme ça, ça va? Juste ça. Hein? C'est pas trop long, ni trop court. Et c'est moi qui dois le dire.
Tu veux, Jean-Louis?
Bon, ouais.
Bon, c'est moi qui vais lire. Je sais pas si je vais être aussi, si je vais être très bon lecteur, mais on va voir. Debout devant la baie vitrée de la salle d'embarquement, il promène son regard sur le tarmac désert. Le béton miroite sous la chaleur, déjà intense de bon matin. Le vent torride soulève des volutes de sable et pousse des virevoltants sur les pelouses disparues, arpents de terre craquelés parsemés de moisines. Ce sont les seuls mouvements que l'homme repère sur cette plaine écrasée de soleil. Il en vint un autre, plus lent, indiscernable à l'œil nu, la progression des dunes qui grignote peu à peu les pistes abandonnées. En se penchant vers la baie oblique, par-dessus le garde-fou chromé, il distingue les trois avions qui gisent là depuis des listres. Un Boeing 787 et un Airbus A330 sur des aires de stationnement et un petit AN 140 Faraz iranien devant un hangar de maintenance, son hangar à présent. Leurs couleurs sont délavées et les logos des compagnies qui les exploitaient s'estompent sous une couche épaisse de poussière ocre. Vu de loin, ils paraissent n'avoir besoin que d'un bon nettoyage. Mais il sait, pour les avoir maintes fois explorés, qu'ils ne sont plus que des carcasses corrodées, pillées, saccagées, servant d'abri aux serpents, gerbilles et autres scorpions. Leurs pneus crevés et leurs cockpits démolis lui font trop de peine, et le vent qui ulule dans leurs tuyères inertes lui évoque des gémissements d'agonie. Il a piloté le Faraz. C'était le dernier avion à avoir atterri ici. Juste une escale technique, un des turbopropulseurs montrant quelques signes de faiblesse. C'était il y a 20 ans. Et puis, bon, après, l'histoire continue.
Là, on entend bien, donc on est un peu dans le futur quand même.
Légèrement, oui, oui, quand même.
Et je me dis, mais et la liberté dans tout ça ? Parce qu'on a évoqué beaucoup de choses en lien avec le temps, mais quand on me parle de changement climatique, quand on me parle d'effondrement, quand on me parle d'esclavage, où est la liberté dans tout ça ? Est-ce que tu veux m'en dire quelque chose ?
Je vais dire quelque chose, parce que dans Symphonie Atomique, j'ai essayé de réfléchir à une société européenne en 2075 qui aurait fait une bascule environnementale. Donc j'avais essayé d'imaginer un système qui avait réussi au regard de mes connaissances sur le sujet. Et puis je suis arrivé à un système très ambigu, en fait, que tous les autres pays du monde appellent les écommunistes. Et en fait, c'est, finalement, ils sont arrivés à une logique de dire il faut qu'on réduise notre impact environnemental. Et en fait, ils ont travaillé sur les mécanismes de récompense neurologique, en fait, qui sont inscrits dans nos processus biologiques et qui font qu'on obtient de la satisfaction socialement par un certain nombre d'actes pour les faire basculer, pour que ce qui nous apporte de la satisfaction, ce soit de ne pas polluer. Donc en fait, la société qui en résulte est très contraignante, les gens sont très contraints, mais du coup, ça reste un système relativement démocratique, parce que c'est un choix des gens, en fait. C'est-à-dire que c'est la société qui, collectivement, a fait une bascule qui fait que, en fait, leur liberté est différente et que ce qui leur apporte une satisfaction est différente. Mais vu de notre point de vue, ça ressemble quand même pas mal à une dictature. Donc le système est très ambigu et en fait ça permet de réfléchir à finalement quelles sont les solutions. Et pour ça, par exemple, ils ont concrétisé le système en faisant une monnaie qu'ils appellent le nomant, qui est en fait la quantité d'impact acceptable par les écosystèmes européens pour un homme pour un an. Et c'est ce qui définit leur capacité de production. Donc en fait, au lieu d'être dans une logique économique comme on connaît aujourd'hui, ils sont dans une logique de planification de la consommation en fonction de l'impact acceptable pour rester en dessous. Et c'est cette planification qui fait que les autres pays, et notamment les grandes puissances, appellent les Européens dans le livre les écommunistes, parce qu'en fait, il y a une forme de planification écologique. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ils viennent en France de nommer un ministère de la planification écologique. Donc ça fait quand même très écho à l'actualité. Et du coup, la liberté là-dedans, ben, c'est une vraie question. C'est-à-dire, finalement, je pense qu'on va devoir reconfigurer ce qu'on considère comme de la liberté en fonction de nouvelles valeurs pour pouvoir traiter les problèmes environnementaux. Je pense que si on ne fait pas cette bascule, on n'arrivera pas à régler les problèmes environnementaux de fond.
Merci. Même question à mes voisins de droite.
Et c'est vraiment une question difficile parce qu'on est au niveau de la liberté, on voit que la notion aujourd'hui de liberté absolue, elle est quand même débattue, en tout cas dans sa capacité à respecter les limites qu'on juge admissibles tant au niveau des personnes que des communautés. Pour ce qui est de l'espoir dans une société ou de l'espoir de liberté dans une société qui connaît son péril, elle est dans la représentation quotidienne des actions et dans l'acceptation individuelle de la participation à un projet collectif. Et c'est vrai que pour en rattacher à mes personnages, pour le voyage dans le temps que j'ai imaginé, en tout cas le plus proche de nous, c'est un voyage dans le temps qui ne se fait pas de manière physique, mais uniquement de manière de conscience. Et donc on voyage d'un corps à un autre selon le fait qu'on a un jumeau dans le passé, un jumeau génétique. Tout simplement, la combinaison des gènes s'est déjà répétée, mais pas à cette époque-là. Et donc ceux qui participent à cette sauvegarde collective de l'humanité, finalement, n'ont pas le choix. Ils y sont contraints dès la naissance, quelque part, parce qu'ils sont eux-mêmes des singularités et on les choisit. Donc ils n'ont, quelque part, aucune liberté, dans le sens qu'ils ils ont tout le poids de la responsabilité qui les écrase. Et finalement, c'est de la liberté sacrifiée au profit du bien collectif. Donc c'est vers là que j'ai souhaité travailler.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Jean-Marc, là-dessus ? peux dire non.
En fait, la notion de liberté, ce n'est pas vraiment une question que je me suis posée au fil de mes ouvrages. Parce que bon, déjà, dans Aquatem, qui se passe donc demain, c'est le même monde qu'aujourd'hui, donc géré par dirigé par des multinationales qui n'ont rien à foutre que la Terre, que la société s'écroule tant qu'ils peuvent faire encore du profit avec la dernière goutte de pétrole ou de charbon. Donc, en l'occurrence, dans Aquatem, c'est l'eau, la ressource vitale, mais ma multinationale est prête à tout pour récupérer l'eau, y compris assécher complètement un petit pays d'Afrique qui n'a pas les moyens de lutter contre elle. Et après, donc, que ce soit dans Exode, Semence, Alliance ou Mes Nouvelles, il s'agit plus d'une question de survie. Donc, il n'y a plus vraiment de pouvoir, finalement. Donc, parce que pour moi, la notion de liberté est concomitante de la notion de pouvoir. Pouvoir d'agir, pouvoir que l'on s'accorde, qui nous est accordé, ou que l'on prend, ou dont on jouit. Ce pouvoir, ou cette absence de pouvoir, donne ou non une certaine forme de liberté. Mais quand le pouvoir ne sert plus qu'à sa propre survie, je dirais on est contraint à la liberté quelque part. On est contraint, donc, que ce soit dans Exode ou les autres bouquins, cette question-là se pose plus tellement, quoi, en fait, finalement.
Alors, comme on est dans la contrainte et dans l'absence de choix, j'aimerais entendre l'extrait de Delia.
Please excuse my rather feeble French, but I would like to try to read this myself.
Delia s'excuse pour son accent en français, mais moi je trouve qu'elle le lit très bien ce passage.
She has just been transformed into the past by a magical creature, and she, without any great ado, she's in a room and she's still in the same room. So that is where I'm going to begin.
Voilà, c'est le moment où Sophie, la protagoniste, vient d'être renvoyée dans le passé par une créature magique. Elle est dans une pièce, mais c'est la même pièce où elle était en 1960.
On est où ? Demanda Sophie. Par toute réponse, elle n'est qu'un petit ricanement, puis plus rien. C'était bien sa chance, pense-t-elle, de tomber sur une créature fantastique qui l'a transportée quelque part et l'a laissée sans aucune explication. En fait, à la réflexion, il était exactement comme le gnome de The Time Garden. Et le gnome apparaissait toujours quand les enfants avaient vraiment besoin de lui. Si horripilante qu'elle soit, la créature en ferait autant, elle en était sûre. En attendant, elle se retrouvait au bon vieux temps dans une chambre qui était à la fois la sienne et pas la sienne. Tous les meubles semblaient provenir des autres pièces. Le lit de princesse était celui de la chambre de maman, mais avec un tissu vaporeux qui descendait du ciel de lit. Les seules traces laissées par l'occupant de la chambre étaient l'écharpe rayée sur le lit et les papiers griffonnés éparpillés sur le bureau. Sophie s'approcha sans faire de bruit du bureau pour l'inspecter. Elle ramassa un porte-plume en ivoire dont la plume dorée était incrustée d'encre séchée. En dessous, il avait une lettre inachevée. Elle n'arrivait pas à déchiffrer l'écriture, mais la date était suffisamment claire, le 12 juin 1860. Sophie sentit sa main trembler un peu. La guerre de sécession allait se déclencher dans, Sophie réfléchit, moins d'un an. Elle se demanda si elle ne devait pas enfermer ses ancêtres, puis décida qu'elle n'allait pas prendre le risque de changer par inadvertance le cours de l'histoire. Elle s'exposait à retourner dans le présent pour découvrir qu'elle n'était pas née. Elle pourrait cependant faire savoir aux Slaves qu'ils allaient être libérés quelques années plus tard. Rien de trop précis, juste une indication pour leur donner quelque chose à espérer.
Merci. Merci pour ce voyage dans le temps et dans l'enfance, et merci pour la lecture en français, bravo. Maintenant, je vais lire en anglais. Non. Non, j'aimerais que... Alors, on était un peu sur des thèmes aussi lourds que l'atmosphère... et la chaleur qui nous tombe dessus. J'aimerais me tourner vers vous, les personnes que vous êtes, et revenir un peu dans le temps pour comprendre ce qui vous a poussé à écrire de la science-fiction. Est-ce qu'on a le choix d'écrire de la science-fiction, de l'imaginaire en général, ou est-ce que ça vous tombe dessus? Est-ce que vous êtes contraint à cette liberté-là? Dans quelle mesure on choisit? Alors, qui on n'a pas entendu depuis longtemps? Toi.
Je m'y attendais. Eh bien, au départ, il y a quand même une affinité avec les genres de l'imaginaire, dans le sens où on a quand même une... C'est un esprit qui est venu me contredire, je dis plus rien. Non, mais voilà, donc je pense que la science-fiction, c'est vraiment l'espace de liberté par excellence, enfin, l'imaginaire. Le plus vaste, parce que quelque part on commence avec une pièce vide, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un mur blanc, sol blanc, plafond blanc, et quelque part la littérature générale nous impose déjà un carcan dans lequel les murs ont déjà une tapisserie, alors qu'en science-fiction, on a la liberté absolue de créer, et du coup on peut faire tout, et là où c'est intéressant, c'est qu'on peut prendre des traits existants et les grossir ou faire une démarche vraiment intellectuelle pour essayer de se transposer dans un avenir ou dans autre chose, en tout cas pour se forcer à réfléchir et à imaginer d'autres possibles. Donc c'est à mon avis la littérature de la liberté complète. Toujours est-il qu'il faut quand même respecter quelques règles, notamment la cohérence générale, pour ne pas changer les règles du jeu. Sauf si changer les règles du jeu, c'est justement le point qu'on a décidé de mettre en avant.
Et toi ?
Et moi, je suis parti d'un matériau existant, donc des personnages réels, et j'ai transformé ce matériau pour le faire rentrer dans une histoire de science-fiction avec des événements qui ont existé, des personnages qui ont existé. Et je me suis dit, finalement, ces destins fabuleux et complètement inconnus sont tellement intéressants que, quelque part, est-ce que ce ne seraient pas des gens qui viennent petit à petit essayer de voyager dans le temps pour modifier l'histoire? Et si ça se trouve, l'Institut Fermi existe vraiment et ces gens sont des voyageurs temporels. On a un personnage qui a survécu à 5 ou 6 batailles alors que toutes ses unités étaient décimées. Et c'est un voilà, ça a vraiment eu lieu en quelques années. Il y a des personnages qui se sont retrouvés cachés dans des endroits incongrus, à être au fait de secrets, ce genre de choses. J'ai essayé de les mettre en avant. Donc la science-fiction, elle est dans le voyage dans le temps, mais quelque part, moi, j'ai préféré rester avec un. Enfin, je me suis raccroché à la bouée de la réalité avec ces personnages qui ce matériau qui existait, quoi.
Étienne, même question. Comment tu es venu, toi, à écrire de la science-fiction? Enfin, pourquoi pas de la poésie? C'est bien la poésie.
Bah, c'est bien la poésie. J'avais essayé aussi. Non, mais du coup, la science-fiction, moi, j'ai depuis très jeune, je lis de la science-fiction. En fait, ça m'a beaucoup imprégné ma jeunesse. Et l'imaginaire, la liberté de décrire des mondes qui n'existent pas, des structures sociales qui n'existent pas, des technologies qui n'existent pas, c'est quelque chose qui m'a toujours vraiment fasciné. Et du coup, j'ai toujours eu cette aspiration-là à écrire. Et à un moment, je me suis toujours dit que j'aimerais bien écrire de la science-fiction. Et du coup, après, ce que j'aime pas mal, du coup, moi, c'est vraiment partir d'une... C'est vraiment réfléchir aux conséquences sociales et individuelles des technologies. Et par exemple, dans mon précédent roman qui s'appelle Légende d'Agrégat, qui est un space opéra, j'étais parti sur l'idée du microbiote. Donc c'est quelque chose qui est en train de sortir, enfin qui est sorti déjà depuis un moment, mais qui est en fait la flore bactérienne intestinale et pulmonaire et de la peau qui a une influence sur le fonctionnement du cerveau, voire sur nos modes de raisonnement. Et donc j'ai imaginé une société qui avait utilisé ces capacités-là pour quelque part créer une cohésion sociale et contraindre psychologiquement les gens à adhérer à leur valeur. Et donc c'est quelque chose ça permet de spéculer pour réfléchir à finalement, quand on découvre quelque chose, quelle application technologique va pouvoir en être, parce que je pense que l'humanité a tendance, quand il y a une nouvelle option, à développer tout de suite le truc le moins utile à tous et le plus bénéfique à quelques-uns. Alors qu'en fait, on devrait faire l'inverse pour être dans une bonne logique. Et donc, ça me permettait de réfléchir à ces sujets-là. Et c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment et que j'aime partager avec les gens.
Je pose la même question de cette arrivée dans la littérature plutôt de l'imaginaire, plutôt qu'autre chose, donc Adélia.
I too read science fiction and fantasy from the time I was very young, and they were the books that I preferred because when I was very young, I was very sick and I was in bed for a long time.
Moi aussi, j'ai lu beaucoup de science-fiction, de fantasy, de fantastique quand j'étais jeune. C'était le style de littérature que je préférais parce que quand j'étais jeune, j'ai été très malade et j'ai été alitée pendant très longtemps.
So what I wanted was something that would open my world. And the world that I was experiencing from day to day was very narrow, also very unpleasant.
Je voulais quelque chose qui m'ouvre un monde, parce que le monde dans lequel je vivais, dans la réalité, était très étroit, très, très contraint et très désagréable.
So I loved stories of magic, and that was what I grew up on, and when I began to write, I wrote what I wanted to read.
Alors voilà, j'ai commencé à aimer, à adorer les histoires où il y avait de la magie. C'était vraiment ce que je préférais. Quand j'ai commencé à écrire, tout simplement, j'ai écrit ce que j'aurais voulu lire.
I read a great deal of science fiction and I enjoyed it, but the science fiction that was available to me when I was growing up, there was no place for me in it. There was nobody that I could even think of identifying with.
J'ai lu beaucoup de science-fiction quand j'étais jeune et j'adorais ça. Mais en fait, dans la science-fiction, il n'y avait pas de place pour moi. Il n'y avait aucun personnage avec qui je pouvais m'identifier, tout simplement.
So, in fairy tales and in a lot of fantasy, there were, in fact, women who had autonomy, who were able to do things. They lived in a larger world and they gave me something to hope for. So when I grew up, what I wrote was fantasy. And, you know, not just strong women, but women who were strong in different ways. So they weren't just with swords, but they were also with strength of character.
Alors voilà, j'ai lu aussi beaucoup de contes de fées, du fantasy, etc. Et dans ce type de littérature, il y a des femmes autorités qui donc pouvaient faire des choses, qui avaient un monde plus large en quelque sorte. Et ça m'a donné espoir. Alors quand j'ai commencé à écrire, moi j'ai écrit du fantasy avec des femmes fortes, pas juste fortes parce qu'elles portaient un glaive, non, parce qu'elles étaient fortes, elles avaient une forte personnalité.
Alors j'aimerais bien qu'on entende. Oh si, toi, excuse-moi. Et après on écoutera l'extrait d'André. Mais... Effectivement, Jean-Marc, on a l'impression que tu as toujours été là et que tu n'es pas arrivé à la science-fiction. Alors il n'y a pas de chemin.
Moi je suis tombé dedans quand j'étais petit en fait. Hein. J'ai lu mon premier roman de SF, j'avais 8 ans. Oui, c'était de la SF pour adultes, hein, parce qu'il n'en existait pas ou pratiquement pas pour les gamins à cette époque. Et ça a été une grande claque qui a conditionné toute ma culture ultérieure. Quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait une littérature intéressante qui était la science-fiction et puis plus généralement le fantastique, les littératures de l'imaginaire, et une littérature chiante qui était tout le reste.
Est-ce que tu t'es essayé à un moment à quelque chose du reste où tu n'as écrit que de la science-fiction ?
Du polar un peu, du fantastique un peu aussi, notamment pour les jeunes, et un seul roman de fantasy. Et curieusement, moi, la fantasy, c'est pas ce qui m'a le plus intéressé parce que...
Parce que tu étais déjà dans les bouquins de science-fiction.
J'étais déjà dans la SF et j'étais déjà dans le décortiquage du monde réel, on va dire. Et toute la SF que j'ai écrite, bon, à part quelques romans de space opéra assez débridés, que je me suis bien amusé à faire, en général, ça part... Toute la SF que j'ai écrite pratiquement partait du monde réel et extrapolait sur des... voilà, sur des... Bah, comme dit... Étienne, voilà. Sur des, voilà, les conséquences de technologie au niveau social, au niveau individuel et tout ça. Donc j'ai fait du cyberpunk quand c'était l'époque, j'ai écrit des histoires de mutants, j'ai écrit des histoires de prise de pouvoir voilà, par le Front National par exemple, ce qui, on sait bien que ça risque jamais d'arriver, mais bon... et puis voilà, et puis à l'aube de l'an 2000, j'ai pris conscience du changement climatique et puis j'en ai fait un peu mon cheval de bataille. Donc j'écris des livres réalistes en fait. Bon, c'est effectivement de l'imaginaire parce que j'imagine toujours l'avenir, mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est de rester quand même assez ancré dans le réel, quoi.
Merci. Alors, je vous propose qu'on écoute ensemble l'extrait choisi par André David.
Alors, du coup, moi, j'ai choisi de vous lire le début, vraiment le début du prologue. C'est pas... c'est simplement parce que c'est en lien avec le thème et c'est une quête de liberté. Voilà, faut le voir comme ça, c'est-à-dire c'est un réveil et la personne se réveille parce que elle a cette soif d'identité, d'existence et de liberté. Choc, réveil, décharge d'adrénaline. La jeune femme gonfle ses poumons à les faire éclater. Son pouls accélère. Elle y est. Elle a réussi. Le compte à rebours commence. À l'emplacement Echo 128, la timide et frêle Epsilon ouvre les yeux. Face à elle, à perte de vue, s'alignent les visages fermés des autres clones encore anesthésiés. 100 fois sa frimousse, de part et d'autre, jusqu'aux cloisons saillantes qui compartimentent la soute. Parfois plus jeune, plus vieillie, cheveux longs, crâne rasé, comme une étrange mise en abîme entre deux miroirs déformants. Et d'un seul coup, tout s'ébranle. L'octopode géant reprend sa route. L'Epsilon panique, brinque-ballée dans tous les sens. La jeune femme serre les sangles de son harnais, le temps de retrouver son souffle. Ses pieds claquent contre la paroi, sa tête se balance. Ses poings étreignent les suspentes jusqu'au sang. Les corps flasques des autres Epsilon s'agitent comme des poupées. Leurs membres se fracassent contre la cloison. Un visage, celui d'une Epsilon qui paraît avoir son âge, s'écrase dans un son rock contre un saillant métallique.
Merci. Je vais enchaîner directement avec l'extrait, toujours chez Critique. Tu veux le faire ? Très bien, faisons ça. La pression sociale a eu raison d'Étienne.
Moi, je n'aime pas beaucoup lire mes textes, mais je vais assumer. Donc du coup, je vais plomber un peu le moral. Moi, c'est pareil, j'ai décidé de lire vraiment l'introduction du roman. Et puis, je pense que ça fera une bonne transition avec la conférence d'après à laquelle je participe et dont le thème est un peu collapsologique. Donc, chers auditrices et auditeurs, nous sommes le 5 juin et nous vous souhaitons la bienvenue sur Radio Collapse, la fréquence de la fin du monde. Sans transition, un nouvel épisode de notre série culte, L'effondrement près de chez vous. Je vous rappelle le principe de l'émission. Vous nous faites part de votre expérience, que vous soyez hashtag désespéré, hashtag écœuré, hashtag révolté ou hashtag autre émotion forte. Si votre récit nous plaît, nous le diffusons en 83 langues sur nos ondes, anonymat garanti. Racontez-nous vos petites histoires et entrez dans la grande avec notre chaîne 100% libre et non censurée. Et n'oubliez pas notre baseline, soyez éco-responsable, suicidez-vous. Mais tout de suite, notre programme.
Eh bien, cher public, hashtag voyage dans le temps, il nous reste 5 minutes qui sont les vôtres. Donc, votre question que vous avez, que vous voulez poser, n'hésitez pas, c'est maintenant, tout de suite. Ils sont là, ils vous attendent. Une question ?
Là. Il y a les projecteurs. En
oui, oh, vous... oui. Qui veut donner un conseil à des auteurs en herbe qui veulent écrire de la science-fiction en 2022 ?
Je vais essayer. C'est vrai que ça devient un peu difficile maintenant qu'on vit déjà dans un roman de science-fiction.
Alors, des conseils pour qu'ils y aillent, hein ? Pas pour qu'ils se suicident, on est d'accord, hein ?
Mais c'est bien sûr toujours possible et c'est toujours intéressant d'imaginer notre avenir d'une façon ou d'une autre, proche ou lointain, humain ou non humain, avec ou sans animaux, avec ou sans la Terre, etc. Moi, je dirais que mon premier conseil, c'est déjà de croire à l'histoire qu'on veut écrire. C'est ce qui permet de la rendre crédible, bah de se dire, voilà, j'écris ça parce que je me dis que ça peut effectivement se produire, ou du moins que c'est logique, que c'est plausible, que ça tient debout, que ça tient la rampe. Bon, on peut écrire une histoire où, je veux dire, les extraterrestres vont débarquer dans une demi-heure là, dans le parc. Ça reste plausible. Si on commence par décrire que des licornes roses vont arriver sur le dos de dragons multicolores...
Et si c'est ça, les extraterrestres ?
Ouais, mais alors là, il faut le justifier. Ça peut être une bonne question aussi. Des licornes roses sur des dragons multicolores, je serais curieux de voir ça. Mais bon, quoi qu'on écrive, même si on parle de licornes roses et dragons multicolores, il faut que l'histoire, dans tout roman d'imaginaire... ne fonctionne que si on suspend l'incrédulité du lecteur, en fait. Donc, il faut amener le lecteur à se dire, ouais, j'y crois parce que ça fonctionne, parce que ça me plaît bien, parce que l'univers est cohérent, parce que les personnages font pas n'importe quoi, ils ont une existence, ils ont un caractère. Voilà, je dirais que c'est le principal écueil. Bon, quand on écrit du mainstream ou des romans d'amour ou même des polars, la matière qu'on manipule, c'est le monde réel d'aujourd'hui tel que tout le monde le connaît. Donc, c'est déjà moins difficile de le rendre crédible. Mais à partir du moment où on parle d'avenir ou d'autres mondes, ou de licornes roses et de dragons multicolores...
Je vais faire.
Cathy va le faire. Justement, pour que les lecteurs y croient dès le départ, il faut bien asseoir l'univers. Donc, il faut commencer par établir l'univers dans lequel on veut écrire l'histoire, je pense. Enfin, moi, c'est la démarche que j'utilise. Je définis toujours un contexte, je fais toujours un synopsis, à la rigueur, un plan. Bon, ce n'est pas obligatoire, hein, y en a qui écrivent sans plan, mais toi, Pierre, aussi, Bordage. Il y en a qui font des plans très détaillés. Moi, je suis plutôt du genre plan détaillé que je ne vais pas suivre, mais que je fais néanmoins. Et donc, ça aide à asseoir l'histoire, ou du moins à poser des bonnes fondations. Il faut déjà poser des bonnes fondations au départ. Bon, ceci dit, mon tout premier roman, j'avais une idée, je l'ai écrite comme ça. Il m'est venu une autre idée, puis une autre, puis une autre. Et puis, résultat, c'est un tel gloubi-boulga que je suis même incapable de dire de quoi il parle. Bon, mais ceci dit, je suis passé apostrophe avec. Donc, allez savoir, le monde est étrange des fois.
Don't give up.
Ne laisse pas tomber.
Et j'ajouterais, il faut lire. Beaucoup lire. Oui.
Moi, je voulais poser une question un peu à tout le monde qui est un peu en mode synthèse. Quel type d'émotion il faut activer chez les lecteurs pour les contraindre à être libres tout en sauvant la planète?
J'ai envie de t'entendre.
Vous pouvez me reformuler la question, s'il vous plaît. J'ai besoin de l'entendre une deuxième fois là pour répondre. Bah, je pense qu'il y a un duo d'émotions en fait pour cette réponse. Il faut quelque part un ressenti qui est, il faut quelque part une émotion qui est de perception qui est quelque part négative, je pense. C'est-à-dire que il faut une crainte ou quelque chose qu'on veut éviter. Il faut générer l'envie d'éviter le futur négatif en fait. Donc il y a forcément une émotion négative au départ qui est proche de la peur ou de l'anxiété, en fait. Je parle beaucoup d'éco-anxiété dans Symphonie Atomique. C'est une pathologie qui est carrément répandue dans la société. Et du coup, pour s'en sortir, il faut avoir de l'espoir et une dynamique positive, c'est-à-dire qu'il faut croire dans la capacité de l'être humain que si un individu essaye de faire quelque chose de positif, il peut y arriver ou il n'y arrive pas, mais le seul fait d'essayer contribue à la réussite globale. Et que par ailleurs, cette tentative des individus finit par avoir un poids collectif, en fait. Voilà un peu comment je vois le problème.
Alors, j'ai envie de réagir quand même à cette question qui me perturbe un peu, qui donne le sentiment qu'écrire, c'est manipuler des gens et qu'il faudrait trouver les bons leviers parce que sinon, voilà. Et ça me fait tout drôle et j'ai l'impression, enfin, je reviens un peu à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, j'ai l'impression que si on y va, on y va vraiment entièrement et qu'on fait le voyage, le lecteur, il va nous suivre dans ce voyage. Et quand on y va, on y va avec nos émotions, on y va avec nos espoirs, on y va avec nos peurs, on y va avec tout ça. Mais pas en se disant, alors, comment vais-je manipuler ces sacrés lecteurs? Déjà, un, pour qu'ils achètent, ensuite, pour qu'ils sauvent la planète. Enfin, voilà, il y avait quelque chose d'un peu instrumental dans la question que je trouve un peu étrange, mais... Mais j'imagine que tu y réponds aussi, mais...
Si je peux compléter, vas-y. Du coup, je répondais plus dans le réel, en fait. C'était plus, à mon avis, ce à quoi il faut arriver dans le réel. Il faut avoir conscience du danger et conscience de la capacité à agir pour faire quelque chose. C'est vrai que le roman, mon but, c'est de générer de l'émotion, mais ce n'est pas de manipuler le lecteur. C'est plutôt de lui faire ressentir des émotions et percevoir ce qui va se passer chez les gens qui essayent de rester positifs et de faire quelque chose qui ne soit pas de la daube, pour en parler clairement, même dans un environnement très difficile. Mais finalement, c'est le but du roman et pas du tout de manipuler le lecteur. Je répondais plus sur, à mon avis, dans la réalité, il faut ces deux moteurs à la fois négatif et positif, ce qui est un peu proche du yin et du yang quand on y réfléchit pour créer un mouvement, en fait.
Alors, on ne va plus prendre de questions parce qu'on a déjà débordé. Mais je vous remercie vraiment beaucoup pour votre attention, pour vos questions. Et si vous avez envie de vous faire manipuler par les personnes ici présentes, leurs livres sont présents à la bulle du livre et ils se feront un plaisir de vous les signer. Merci, bonne soirée à tout le monde.